Bonjour Hervé.
Bonjour.
La presse de ce matin revient abondamment sur la déclaration d'Emmanuel Macron qui évoquait lundi la possibilité, je dis bien la possibilité d'envoyer des troupes au sol en Ukraine.
Nos soldats n'y sont pas encore, mais c'est en effet un feu nourri qui réplique dans la presse aux propos présidentiels. Le Parisien observe qu'en brisant le tabou de l'envoi de troupes, et non plus seulement d'armes, le président de la République a surpris et heurté ses alliés. Macron isolé en Europe, titre en une Le Figaro, le chef de l'État a essuyé le désaveu de la quasi-totalité des 27 pays de l'Union, écrit le journal, dont l'édito critique un président va-t en guerre. L'humanité est à peu près sur la même ligne pour une fois, pour qui Macron choisit l'escalade, Libération est moins sévère, qui juge que face au danger russe, il y a urgence pour l'Union européenne à afficher sa capacité de dissuasion, au moins symboliquement.
Et le journal L'Opinion fait sa manchette sur le vrai plan de Macron. Le président a-t-il une intention cachée?
Disons que la déclaration d'Emmanuel Macron mérite une analyse fine. C'est ce que fait Jean-Dominique Merchet, l'expert des questions de défense du journal. Il relève que le président a souhaité pour la première fois en public la défaite de la Russie et que dans sa phrase sur l'envoi des troupes au sol, il évoque un envoi de soldats de manière officielle, assumée. Pour lui, l'emploi de ces mots constitue un signalement stratégique adressé à Poutine, l'amorce d'un renforcement du soutien politique à l'Ukraine. Quant au soutien militaire, il existerait déjà, selon Jean-Dominique Merchet, de façon non assumée. L'Opinion laisse clairement entendre que des conseillers français sont déjà à l'œuvre auprès de l'armée ukrainienne, y compris des agents de la DGSE. On s'excite donc sur des mots pendant que, sur le terrain, on serait déjà passé aux actes. Ce ne serait pas la première fois.
Bon, il ne faut pas le répéter, tout cela doit rester évidemment secret. Une autre bataille se livre au Parlement et au-delà. Dans une partie de la société, c'est celle de l'interruption volontaire de grossesse.
L'Assemblée nationale a adopté il y a un mois un texte visant à inscrire dans la Constitution la liberté garantie à la femme d'avoir recours à l'avortement. Le Sénat vote cet après-midi. Le Parisien décrit en détail les dilemmes de la droite sénatoriale dont dépend l'issue du scrutin. Pour le résumer simplement, les chefs sont contre, le groupe est divisé entre ceux qui sont contre, ceux qui ne sont pas contre mais veulent modifier le texte et ceux qui le voteront. Le Figaro annonce lui aussi un vote incertain en soulignant que dans tous les groupes, une liberté de vote a été donnée aux sénateurs. Le journal La Croix, lui, est allé à la rencontre de militants pro-vie qui défileront à l'heure du vote devant le Sénat.
Et ce portrait de groupe à lire dans La Croix étonne sur un point, le très jeune âge de ces militants.
Le journal décrit une manifestation fin janvier à Paris du mouvement Génération Pro-Vie, qu'il faut traduire par anti-avortement, c'est plus honnête. Les partisans de l'IVG ne sont pas contre la vie. 80% de nos manifestants ont moins de 25 ans, confié ce jour-là la porte-parole, qui accompagnait déjà ses parents au même âge pour réciter, dit-elle, des rosaires devant des cliniques d'avortement. Le leader du mouvement parle, lui, carrément d'une manif de gamins et il se réjouit. La plupart de nos militants sont des enfants de militants pro-vie et comme ils font beaucoup d'enfants, ça peuple nos rangs. La contestation contre l'IVG s'exprime sans relâche à lire La Croix dans des campagnes d'affichage sauvage et sur les réseaux sociaux où les musulmans rejoignent parfois les catholiques, confie la porte-parole de Génération Pro-Vie. Ils sont généralement opposés à l'IVG, dit-elle, mais ils ne descendent pas forcément dans la rue.
J'adore le militant pro-vie qui explique que les manifestants pro-vie se reproduisent eux-mêmes et en nombre. Je trouve ça génial. Ça n'a pas de rapport avec l'IVG, mais pendant ce temps, Le Point dévoile une décision stupéfiante qui vient d'être rendue par le Conseil de l'Ordre des médecins.
C'est à lire sur le site du magazine Le Point. Tenez-vous bien, l'Ordre régional d'Occitanie a condamné le docteur Jérôme Marty à un blâme disciplinaire et a versé 2000 euros à Francis Lalanne, qu'on n'ose plus qualifier de chanteur, et à Jean-Marie Bigard, qu'on n'a jamais pu vraiment qualifier d'humoriste. Le docteur Marty a eu son heure de gloire pendant l'épidémie de Covid. On l'a beaucoup vu à la télévision expliquer les mesures sanitaires. Pourquoi est-il puni ? pour avoir répliqué dans une lettre ouverte aux inepties des deux artistes que je viens de mentionner. Il les a notamment présentés comme, je cite, « la partie grossière du corps du complotisme, son orifice béant et malodorant ». C'est vrai que c'est assez rude. Lalanne et Bigard, eux, s'étaient contentés d'assimiler la vaccination à un génocide, le pass sanitaire à l'étoile jaune, Agnès Buzyn avait été traitée de connasse et Olivier Véran de grosse merde, pardon pour les citations, mais il fallait bien ça. Les médecins d'Occitanie ont jugé que la réaction du docteur Marty était de nature à déconsidérer la médecine.
Bah voyons.
C'est ce qu'on appelle l'hôpital qui se moque de la charité. Le docteur Marty a fait appel.
Martyrisé, Marty, par le Conseil de l'Ordre. Alain Delon n'a tiré sur personne, mais il avait de quoi. Le Parisien révèle qu'au cours d'une perquisition chez lui, les gendarmes ont saisi 72 armes à feu.
72 armes et 3000 munitions. On mesure avec cet article à quel point cette sombre intrigue familiale a fait définitivement passer l'acteur de la rubrique cinéma à celle des faits divers. Si Delon est notoirement un passionné d'armes, le Parisien précise que cet arsenal n'était pas entièrement constitué d'armes de collection, ce n'était pas non plus des accessoires de ses films. L'acteur disposait dans sa propriété à Douchy dans le Loiret d'un stand de tir conçu sur le modèle de celui du GIGN. Écrit le Parisien. Hiromi Rollin, la dame de compagnie, et un peu plus que cela, qui a été écartée, vous le savez, par les enfants d'Alain Delon, s'inquiète, selon son avocat, que l'acteur soit gardé ainsi sans traitement médical malgré son état et avec des armes à proximité. L'article raconte aussi les échanges de plus en plus féroces entre les enfants d'Alain Delon eux-mêmes. Heureusement donc que les armes ont été confisquées.
Et vous ne dites pas si l'arsenal d'Alain Delon sera offert à l'Ukraine en gage de bonne coopération militaire.
C'est un usage qui pourrait s'envisager.
Hervé Gattegno, la revue de presse à retrouver sur l'application Radio Classique comme celle d'hier et celle d'avant-hier. Si vous voulez faire une mise à jour, tout de suite, nos esprits libres...